Quiconque ose défier la puissance de Mr. D doit être puni. Vous errerez désormais dans un podcast inconnu, jusqu'au royaume d'iTunes, où vos telex resteront inertes.
Non, pitié.
J'ai rien demandé, moi.
Quid Novi, des telex antiques, mais pas en toc. Ave auditeur, et bienvenue dans Quid Novi. Quid Novi, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout le regroupement des esclaves telexeurs de l'agence Togeek,
sauf péremptoire,
qui vont remuer le fond de leurs favoris internet et écumer les réseaux sociaux pour vous ramener des news qui, je l'espère, vous plairont. Seulement des news? Non. Puisque la vocation de Quid Novi est aussi de vous faire découvrir quelques pépites du net, vous apporter de l'inhabituel et de l'inattendu avec notre rubrique culture. Et pour vous présenter tout ça, j'accueille Sanson.
Salut.
Et péremptoire.
Bonjour à tous.
Péremptoire qui est un peu... Non mais je veux juste te dire que c'est pas un esclave, c'est plus un esclave du Mr. D, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais, à part si j'arrive à le faire plier. Et moi, Barberousse, qui a un petit peu le foutre de merde et qui va être surtout l'hôte du podcast. Vous êtes prêts, on attaque?
Non, on est prêts.
On attaque.
Alors, aujourd'hui dans ce pilote, on parlera d'économie numérique, de zombies alloués, de Lina qui arrive chez vous, de la petite sirène, d'Avatar dans la vraie vie et des boules de la police. Alors pour commencer, je passe la parole à Sanson qui va nous parler d'économie numérique et la France qui fait encore une commission
bizarre.
Oui, voilà,
bizarre. Bah, en France on aime bien les papiers. Bon, c'est la news un peu chiante, hein, je vous préviens. Alors, Journal du Net qui nous dit ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'association qui s'appelle France Digital, qui a été lancée le 12 juin dernier et inaugurée le 2 juillet en présence de Fleur Pellerin. Alors je vous rappelle qui est Fleur Pellerin, c'est la nouvelle ministre de l'économie numérique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un peu une association ou un nouveau lobby dont le but est de parler et de numérique, de la vie du numérique en France et de participer surtout à créer un écosystème favorable à l'essor des startups françaises qui ont besoin d'un coup de pouce. Hein. Donc,
en plus, on sait que récemment, le Conseil national du numérique a été plus ou moins dissous, ce qui peut être assez rigolo par
voilà.
rapport à ça.
Donc en fait... C'est une association qui veut œuvrer pour la croissance de ce secteur. Et il faut savoir que le conseil d'administration est constitué vraiment à parité de représentants de fonds d'investissement hein, et de net entrepreneurs. Voilà, donc c'est 50-50. Alors, pourquoi faire hein? C'est encore une association qui va faire plein de commissions, plein de papiers. Voilà, voilà
plein de
buffets.
Plein de taxes peut-être.
Écoute, je sais pas, faut attendre les propositions. En tout cas, ils vont publier des baromètres. Ils s'attendent à être consultés, je pense, par le gouvernement, entre autres, avec des chiffres, des groupes de travail pour un peu booster tout ça. En fait, plus concrètement, ils veulent assurer le financement privé par de l'emprunt à long terme, comme des assurances-vie pour ces startups, hein, obliger les grands groupes qui atteignent un certain seuil de crédit impôt recherche à financer des startups, justement. Et réformer la fiscalité des entrepreneurs, hein. Voilà, évidemment. Et chacun prêche pour sa paroisse en temps de crise, ce qui est bien normal. Alors en fait...
On a la liste des personnes qui sont dans ce
ouais,
conseil.
C'est disponible sur le site hein, francedigital.org. Alors ne vous trompez pas, parce que si vous allez sur francedigital.com, vous allez vous retrouver sur un site de randonnée pédestre, voilà, qui n'a rien à voir.
C'est voilà. Joli aussi.
Ouais, c'est
bien
sympa, mais alors ça s'appelle France Digital aussi, alors qu'on m'explique, mais bon. Après, c'est peut-être une question d'empreinte, j'en sais rien. Voilà, donc France Digital, ils veulent finalement, ils veulent couvrir l'ensemble des sujets liés au numérique, soit seuls, soit en partenariat avec d'autres associations, si elles travaillent déjà sur la question. Voilà.
On peut voir quand même sur la page, entre autres France Digital, l'avenir numérique, ce qui est important, c'est qu'ils sont quand même... un compte Facebook, ils ont aussi un compte Twitter, ce qui est quand même assez rare pour, on va dire, des commissions françaises où on est plutôt à la bourre dans à peu près tout
justement,
ce qui est Internet. C'est quand même assez
quand
étonnant.
Même la... Bon, évidemment, ils vont publier de la paperasse, ils font des commissions, mais c'est quand même justement un nouveau lobby qui pallie à un manque dans le pays, il me semble. Hein. Ils sont assez dynamiques. On a quand même...
Ah, je vois ça, parce que sur la page principale, il y a une petite vidéo qui montre la première assemblée générale et il y a un buffet. Donc je pense qu'on est bien en France, c'est parfait.
S'il y a un buffet, c'est une bonne commission, non?
Oh, si y a un buffet, c'est très bien. Alors, après tout ça, moi je vais vous parler de zombies alloués. Est-ce que vous connaissez...
Excellent.
Ça, c'est très bien ça. Est-ce que vous connaissez Left 4 Dead, le jeu vidéo?
Ah, moi je ne connais
bien
pas.
Bien sûr.
Je suis totalement novice par rapport à ça.
Alors, Left 4 Dead, en fait, c'est un jeu vidéo multijoueur, coopératif, où 4 personnes vont devoir survivre à des hordes de zombies et atteindre un objectif. Un peu comme dans Shaun of the Dead, L'Armée des Morts, ou encore tout un tas de très jolis films très sympathiques et plein d'émotions.
C'est assez jouissif.
C'est très speed et c'est très jouissif. Et un petit malin en Angleterre s'est dit que ce serait peut-être très amusant de refaire ça, mais en vrai, dans la vraie vie. Et il se trouve qu'il a monté cette société. C'est une société qui va vous proposer de faire pendant 4 heures, en vrai, dans un vieux magasin désaffecté, de faire
c'est
une...
C'est court, 4 heures.
C'est court, mais c'est intense. 4 heures de survie face à une horde de zombies. Alors ça se passe à l'ouest de Londres, par groupe de 18 personnes. Et le stage se déroule de la façon suivante. On va commencer par une formation au maniement des armes pendant une heure. Alors évidemment, pas de Kalachnikov et autre chose. Hein.
Quel dommage.
Ce sont juste...
Et est-ce que le cours de maniement d'une heure est compris dans les 4 heures ou c'est, autre
c'est compris dans les 4 heures. Tu as une heure de maniement des armes, donc ça va être du paintball, principalement, parce que bon, les zombies en face, c'est des êtres humains, donc fatalement, il faut essayer de bien viser. Ensuite, après ce petit stage d'une heure, vous aurez 3 heures de survie directement dans ce magasin avec des effets pyrotechniques et vous devrez essayer de vous en sortir au mieux que vous pouvez. Donc ça se passe, comme je l'ai dit, à 18 personnes et ça coûtera 199 livres par personne.
Donc, pour 4 heures, ça fait... Oh, c'est honnête, finalement.
Ouais.
C'est pas mal. Hein. Ouais. Après, il y a vraiment des hordes de zombies, un paquet de gens. Vous pouvez aller voir directement sur le site zevents.co.uk. zevents.co.uk.
Est-ce qu'il y a moyen de récupérer des souvenirs, faire une vidéo, prendre des photos?
Pas du tout. En fait, ce sont les organisateurs qui vont le faire eux-mêmes. Et ils pourront ensuite ils vous proposent les vidéos à la fin.
De le vendre,
non, ils ne le vendent pas. Ils vous donnent les photos à la fin. Et les boissons sont comprises. Donc,
moi, j'irais bien si Barberousse paye.
Si tu ramènes 18 personnes, ça peut le faire. Hein. On va se débrouiller. T'es tellement VIP.
Péremptoire, faut savoir, il se fait
ça va mal finir.
Partout. Hein.
Puis tu vas faire des films toi-même. D'ailleurs, tu veux pas nous parler de Lina qui s'invite
Oh, quelle transition.
Évidemment, je vais vous parler de Lina. Oh, quelle transition.
Ah, ça bosse, hein, c'est incroyable.
J'ai envie d'applaudir. Alors, qu'est-ce que Lina? Donc, Lina, c'est bien sûr l'Institut National de l'Audiovisuel qui a été fondé en 78 et donc, pour rappel, un but simple, collecter et archiver un petit peu tout ce qui se fait en termes de production télé et radio française. Donc, des vieilles pubs comme Super Timor, si vous en souvenez.
C'était pas et, français, Super Timor.
C'était pas français?
Non.
Ah, je croyais que c'était français. Et donc l'INER considère également que tous les documents amateurs peuvent avoir une importance maintenant dans notre patrimoine culturel. Donc leur credo, c'est un petit peu les films amateurs ont une histoire. Et pour ce faire, ils viennent de lancer un nouveau projet qui s'intitule Mémoire partagée. Et donc ils se proposent de réceptionner un peu tous les enregistrements que vous avez dans les vieux greniers, dans les vieux cartons du grenier. Donc le but, c'est bien évidemment d'enrichir un petit peu notre histoire avec des nouveaux documents où l'on aurait le point de vue de personnes ordinaires et non celles des journaux télévisés par exemple. Donc l'initiative est bien sûr ouverte à tout le monde, n'importe qui peut envoyer ses archives, peu importe le support, ça peut être du Super 8, du VHS, et peu importe l'époque. Bon, vous en doutez quand même, l'INA ne veut pas publier n'importe quoi, tous les documents seront analysés, donc devront remplir certains critères que je n'ai pas, qui n'ont pas été diffusés, mais ils veulent quand même... pas diffuser n'importe quoi.
C'est l'INA, c'est pas YouTube, hein.
Ouais. Il faut vraiment se concentrer sur les documents qui ont une valeur historique ou patrimoniale. Par exemple, ça pourrait être des documents sur mai 68 du côté des étudiants, vraiment au cœur des manifestations, ou par exemple des films sur les premiers congés payés, par exemple. Donc, petit point supplémentaire, même si l'intention est louable, il y a quelques voix qui s'élèvent et qui pointent quand même quelques petits bémols. À savoir qu'hormis la satisfaction de participer à un tel projet, les participants ne doivent pas s'attendre à recevoir une contrepartie financière, bien sûr. Donc, pas de soucis.
Bah non, ouais.
Pas de sous-sous dans la
poche. Je comprends pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai trouvé la première cuite de ma grand-mère. Je trouve que quand même, ça vaut de l'or, quoi. Je sais pas.
Ah, tu nous donneras le lien.
Voilà,
c'est ça,
exactement.
Grand-mère bourrée pour AVI. C'est sur YouTube.
Ah oui.
Avec
ah,
la
moi,
date.
Et donc, autre bémol aussi. Et donc, tous les documents qui ne seraient pas numérisés devront l'être, et ce, aux frais du propriétaire du document.
Oui, d'accord.
Voilà,
merci.
Ah oui, quand même.
On ne vous paye pas, mais vous payez la numérisation du document.
Oui, mais après, grand-mamie va être sur le site de l'INA, ce qui est un petit peu la classe pour grand-mamie qui est morte l'année
dernière.
C'est comme faire une
annonce nécro dans le monde. Hein.
Mais l'INA a toutefois rassuré tout le monde. en expliquant qu'il ne ferait pas payer l'accès aux documents. Quand même, faut pas déconner.
Ah bah, tu veux dire que t'as un compte premium pendant 3 mois quand tu donnes un document, c'est ça?
Non, tu pourras juste les visionner.
Juste les consulter.
C'est déjà très bien.
Bon, on parlait du gouvernement français, donc il paraît que tu peux nous parler du gouvernement américain, Samson.
Bah ouais, le gouvernement américain, quand même, il se retrouve dans des situations, des fois, tu sais, quand ça va loin avec son peuple. En fait, ce qui s'est passé récemment, et cette news m'a bien fait rire, c'est que la très sérieuse NOAA, donc National Oceanic and Atmospheric Administration, a dû publier démenti. Et quel démenti? Ah, t'as vu. Un démenti comme quoi les sirènes n'existaient pas.
Waouh.
Ah, ça n'existe pas. Mais alors, Pirates des Caraïbes, c'est des conneries?
Alors, pourquoi une administration qui s'occupe des tsunamis, du climat, des stocks de pêche et tout ça, en vient à devoir démentir une légende pareille, quoi? Alors, bah, bienvenue aux USA, j'ai envie de dire. La faute, c'est un documentaire diffusé sur la chaîne Animal Planet et qui s'est intitulé Sirène, le corps retrouvé. Tadam ! Avec montage, son bizarre enregistré sous l'eau, ton et mise en scène orientée assez complotiste, visiblement. Et même d'ailleurs, à l'appui des interviews de membres de la NOAA, en plus. Eh bien, quand bien même la chaîne avait soi-disant mentionné qu'il s'agissait d'un reportage fictif, tu vois, eh ben, ils ont dû répondre aux nombreuses demandes des téléspectateurs qui croyaient que tout cela était vrai. Alors, faut dire que je pense qu'aux États-Unis, il y a tellement de pubs pendant un reportage comme ça qu'il y en a qui arrivent en plein milieu, forcément, si c'est pas rappelé que c'est...
Débarquent et puis ils se rendent pas compte.
Voilà. Et donc là, forcément, ça attise la curiosité. Donc, ils ont dû le démentir. Alors, ils sont coutumiers du fait. Hein. Aux États-Unis, beaucoup d'administrations fédérales sont obligées régulièrement de démentir des légendes. Comme quoi, on se souvient peut-être qu'il a fallu dire non à la rumeur comme quoi Barack Obama ne s'était pas téléporté sur Mars quand il était jeune.
Oui,
voilà.
Pourquoi
ça,
pas.
Ça, c'était en janvier dernier. Oui, ça m'étonne pas de toi, péremptoire. Hein. Va falloir arrêter de lire des légendes.
Complot.
Oui, des complots.
Complot. Ah,
j'adore les légendes.
Ça m'étonne pas. Et puis, bah, en novembre dernier, sous le poids de deux pétitions, visiblement, ils ont dû démentir qu'il n'y a pas de dossier secret sur la vie extraterrestre. Et d'ailleurs, pour en revenir aux zombies, comme tu en parlais tout à l'heure, Barberousse, il y a une autre agence fédérale, le CDC, qui a dû démentir l'existence des zombies suite à la série de faits divers assez sordides. Alors, moi, j'ai une question quand même par rapport à ça. Comment on en vient à en venir là, à devoir démentir des choses complètement abracadabrantesques? Est-ce que c'est l'effet crise économique et du coup un climat de peur et surtout de paranoïa?
Non, moi je pense que c'est l'effet télévision. Juste pour préciser quelque chose, dans le même ordre d'idée, il n'y a pas si longtemps, il y avait un sondage en Grande-Bretagne qui avait montré que 30% des Britanniques croyaient que le voyage dans le temps existait vraiment.
Et c'est la patrie de Dr. Who quand même, donc on peut les comprendre.
Oui, c'était surtout grâce à ça. Et qu'un Britannique aussi sur 4 croyait que la téléportation existait réellement aussi de nos jours. Et le plus drôle, ça restait quand même les 20% qui prétendaient pouvoir voir la gravité ou à croire que les sabres laser existaient vraiment.
Trop de TARDIS, tu le TARDIS.
Exactement.
Sous l'océan.
En parlant d'États-Unis, est-ce que vous avez vu Avatar?
Oui, exact. Tu parles de Pocahontas avec des schtroumpfs, c'est ça?
Oui, voilà, le magnifique scénario avec les messieurs tout bleus. Avatar a rapporté plus de 2,782 milliards de dollars depuis sa sortie en 2009. Ça fait un petit peu beaucoup. Je pense qu'on pourra en prendre un petit peu si vous voulez bien. Et peut-être qu'une partie de ces 2 milliards de dollars a été investie dans un laboratoire de Béziers. Puisque c'est une news toute fraîche, une news Guinevere approved. Puisqu'un étudiant israélien a réussi pendant quelques minutes à contrôler un robot à distance. Et pas avec une manette, pas avec ses doigts ou un Kinect ou autre, mais avec son cerveau.
Mais avec quoi?
Avec son cerveau.
Oh,
incroyable.
Wow. Carrément.
Carrément un truc de ouf. Le principe est simple, c'est-à-dire que cet Israélien a été placé dans un IRMF, un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui a analysé en direct son cerveau. L'étudiant pensait à un mouvement, par exemple aller en avant, aller en arrière, tourner à gauche, tourner à droite. L'IRM analysait ce mouvement et envoyait l'ordre directement au petit robot. Et l'étudiant pouvait voir les mouvements du robot grâce à une caméra montée sur le robot. Et qu'il
avait... Ah, il y avait un feedback quand même.
Il y avait un feedback quand même, ouais, qui permettait de se diriger,
pas faire n'importe
pas
quoi,
faire n'importe quoi se diriger dans une pièce, etc. Même à un moment, il y a eu un petit problème de connexion, un peu comme avec Orange il y a quelques jours. Et les scientifiques ont carrément soulevé le robot. Et les Israéliens se seraient déclarés, c'était vraiment spectaculaire, je m'y croyais vraiment, et au moment où ils ont soulevé le robot, j'ai hurlé, mais lâchez-moi, ils s'y croyaient vraiment en fait. C'était vraiment à la place du robot.
Ça fait un peu peur quand même. Et donc pour les applications, on pourrait imaginer ça au niveau militaire surtout, je pense.
Éventuellement militaire, on pourrait imaginer ça au niveau médical. On a déjà des tests de robots médicaux pilotés depuis la France qui opèrent quelqu'un aux États-Unis. On pourrait imaginer la même chose, mais avec ce genre de technologie. Avec un peu d'entraînement, en fait, la réponse serait beaucoup plus rapide qu'avec des outils mécaniques. Il y aurait sûrement moins de formation nécessaire par rapport aux outils actuels, qui sont au final assez gros et assez volumineux et assez peu pratiques.
Ça me rappelle aux États-Unis cette histoire d'un petit singe qui contrôlait avec une manette une pince située à 2000 km de là pour récupérer des cacahuètes. Donc c'est pour dire que n'importe qui pourrait le faire finalement.
Alors bientôt Avatar dans la vie réelle, on sait pas. Mais est-ce qu'on pourra comme ça commander un peu tout et n'importe quoi à distance? On pourra commander un robot, un T-1000, un R2-D2, puis je sais pas, un robot livreur de pizza ou un robot flic? En parlant de...
C'est bien,
être marrant, ça.
Pour nous pousser à être encore plus sédentaires qu'on ne l'est déjà.
Ah bah oui. This is your avatar. Et en parlant de science-fiction et de la police, tu peux nous en parler, Péremptoire ?
Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un logiciel utilisé aux États-Unis par la police qui est utilisé pour prédire les crimes à venir. Donc on pourrait faire le lien avec Minority Report, le film de Spielberg qui est tiré d'une nouvelle de science-fiction de Philip K. Dick.
De 1956.
Exactement, et qui raconte un monde futuriste où la police arrive à empêcher des crimes juste avant qu'ils ne soient commis.
Et la société pré-crime.
Exactement, et grâce à des individus qui sont dotés d'un don de précognition. Alors c'est la société Predpol qui se charge de ce logiciel et qui a pour but d'améliorer la prévention des crimes, sans pour autant augmenter le nombre d'agents de police sur le terrain. Comment ça marche? Eh bien chaque patrouille de police a une carte, et sur cette carte figurent des carrés rouges. Ces carrés rouges correspondent à des lieux où il y a le plus de chances d'avoir des délits. Donc les patrouilles n'ont qu'à se déployer sur les lieux pour dissuader les malfrats, c'est tout simple. Mais pour
oh
ceux...
là là.
Ah oui, ça fait peur. Quelqu'un disait d'ailleurs que si les flics sont tout le temps sur ce lieu, forcément il n'y aura plus de crime, donc la carte va faire n'importe quoi après. Donc
la carte elle va surtout changer de point rouge.
Voilà.
Donc ça va juste se délocaliser.
C'est abusant, on va avoir une interface un peu comme à SimCity. Est-ce que ouais, vraiment la police va être plus efficace?
Bah, apparemment, ça marche. Je vais y revenir tout à l'heure, parce que, juste pour finir, le logiciel se base sur des rapports de police qui remontent à plusieurs années. Et donc, en voyant les lieux et les fréquences où les délits sont commis, le logiciel génère de lui-même la carte. Mais donc, est-ce que ça marche? Eh bien, selon un rapport publié dans le prestigieux magazine du MIT, entre novembre 2011 et avril 2012, les prédictions du logiciel sur un quartier de Los Angeles ont été 6 fois plus précises que celles des analystes humains. Avec une baisse de 25% de la délinquance. Donc 25% de la délinquance, c'est un chiffre donné par la société qui programme le logiciel. Donc il faut faire un petit peu attention.
Ouais, c'est-à-dire que le logiciel, il n'est pas nourri aux donuts.
À prendre au conditionnel.
C'est un peu la météo des crimes, quoi.
Ouais, exactement. Ça serait bien, ça, la télé. Donc l'article fait aussi une petite parenthèse en expliquant que ces systèmes tentent de plus en plus à franchir une certaine ligne rouge, à l'instar d'un système qui s'appelle le FAST, et qui est conçu pour être utilisé dans les aéroports et qui sont censés prédire ceux qui s'apprêtent à commettre un crime, en analysant à distance des facteurs biométriques comme le rythme cardiaque et la température du corps, entre autres.
Mais on va être complètement flické de partout.
Tout à fait. C'est comme le...
C'est une bonne nouvelle.
C'est comme
ouais,
le portail à rayon X, pour voir sous les vêtements.
Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est...
Parfait, je suis d'accord.
S'il te plaît.
Maintenant, ça va être la minute culturelle de Péremptoire. Allez, à toi.
Oui, merci, merci. Alors, je vais encore vous parler de policiers cette fois-ci. Je vais vous raconter 3 petites légendes urbaines sur un petit peu les trésors d'imagination que la police peut mettre en place pour confondre les malfrats. Parce que vous allez voir, les légendes urbaines, j'adore
pour ça. Confondre, pour se tromper entre deux ou...
Non, pour arrêter les malfrats.
Ah, d'accord.
Donc la première est relativement simple et efficace, donc je vais pas m'y attarder. Un malfaiteur et son complice sont arrêtés et interrogés séparément, mais personne n'est passé à table, comme d'habitude. L'enquêteur prétend devoir sortir de la salle d'interrogatoire et oublie malencontreusement, entre guillemets bien sûr, un dossier avec des faux aveux du complice. Donc succès immédiat, le malfaiteur se met à table pour se venger et montrer qu'il n'était pas seul dans l'histoire. Le voleur est dupé et la police a ses aveux. La deuxième légende est plus sympa quand même. Pour pouvoir arrêter un grand nombre de malfrats en une fois, la police de la petite ville d'Ausan monte une énorme arnaque. Ils ont envoyé environ 800 malfrats, donc ça allait du simple délit de conduite à un suspecté de meurtre quand même, à un avis par la poste stipulant que ceux-ci avaient gagné une grande somme d'argent à la loterie nationale. Donc forcément, venez chercher vos sous, quoi. Vous pouvez venir chercher votre argent, tel jour, telle heure. Et forcément, à peine le suspect arrivait dans la salle, tout content forcément, que la police l'encerclait pour lui passer les menottes.
C'est pratique, c'est le prêt à tabasser.
Sur la vidéo que je mettrai en lien, vous pourrez voir le visage du malfrat passer du sourire au what the fuck, on va dire, en une seconde, c'est absolument sublime. La dernière légende est vraiment de très loin ma préférée. Dans les années 60, la police de Radnor en Pennsylvanie vient d'arrêter un voleur à main armée qui voulait dérober de l'alcool dans un magasin. La police compte bien le faire passer aux aveux, parce que c'est son travail, et essaye la technique classique d'interrogatoire, le gentil flic, le méchant flic, en promettant une remise de peine s'il passait à table. Mais ça ne marche pas, forcément. Donc les enquêteurs décident de changer de technique, et ça, la meilleure partie arrive. Un des enquêteurs sort et va parler à un de ses collègues qui lui propose de faire passer au malfrat un test sur un détecteur de mensonges assez particulier. L'enquêteur et son collègue reviennent un petit peu plus tard dans la salle d'interrogatoire avec un étrange détecteur de mensonges et commencent à le brancher au malfrat. Et là, le truc magnifique, le mystérieux détecteur de mensonges s'avère être en fait une passoire métallique reliée à un vieux bout de câble et relié à une photocopieuse Xerox.
Ah d'accord.
Mais
c'est bestial, il a branché ça sur la CB, ça a fait psst.
C'est un petit peu différent. Le suspect ne s'en rend pas compte, et donc une fois en place, il est de nouveau interrogé par la police, et donc forcément il ment, et là, le collègue scanne une feuille où il est écrit « il ment », et donc une fois la feuille scannée, elle sort de la Xerox, et il montre ça au malfaiteur en déclarant « regardez la feuille, c'est marqué « il ment », donc vous mentez monsieur ». Et là, la sueur commence à perler sur le front du malfrat, on répète l'opération 2-3 autres fois, avec toujours la feuille marquée « oui, marqué il ment ».
Laissez mijoter.
Voilà, on laisse mijoter. Et là, sous le stress, forcément, le malfaiteur craque et passe à table.
Ah, c'est magnifique. Donc,
ouais, c'est vraiment
facile d'être
super
policier,
histoire.
En fait, finalement.
Mais contrairement aux deux légendes urbaines précédentes, celle-là est la moins vérifiable parce qu'on n'a pas de vidéos ou de photos, ni même de témoignages oraux fondés. En fait. La police de la petite ville, d'ailleurs, reçoit peut-être une centaine de mails par semaine pour savoir si l'histoire est vraie. Les gens qui veulent savoir si l'histoire est vraie. Mais c'est surtout, en fait, les spécialistes des légendes urbaines racontent que ces histoires sont importantes, qu'elles veulent surtout nous conforter dans le fait que les criminels sont stupides.
Eh ben non.
C'est toujours bien de penser qu'ils sont stupides, quand même.
Ah, c'est bien une chose sur laquelle il faut miser dans notre monde actuel, c'est sur la stupidité des gens. Là, on est sûr de ramasser des pognons.
Exactement.
Et pas du tout sur la stupidité de ce podcast, qui est magnifique.
C'est culturel.
Et qui est bien fait.
C'est culturel, grâce à Péremptoire. C'est très important.
Merci Péremptoire.
Merci Péremptoire.
Attendez-vous à encore entendre des légendes urbaines.
Ouais, il paraît que t'aimes bien ça.
Ouais, j'adore ça.
Alors, merci à vous de nous avoir écoutés pour cet épisode pilote. Je vous rappelle que nous sommes sur Twitter avec le compte QuidNoviPDC, QUIDNOVIPDC, pour suivre les prochaines sorties. On n'est pas encore sur Internet parce que ça va venir dans pas longtemps. Déposez-nous tous vos commentaires, tous vos avis, si vous avez aimé ou pas, sur le site.
Même si vous n'avez pas aimé, dites-le.
Surtout si vous n'avez pas aimé, mais si vous avez une bonne raison aussi, c'est mieux. Et sinon, on vous remercie et on vous dit à la prochaine fois.
Allez, salut, à la prochaine.
Au revoir.
N'oubliez pas, vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la tête sur un mur.